Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47 dans quelques instants. Le petit déjeuner de l'actu, Thierry Guerrier, Christine Bouillot, Éric Revel et vos appels 0826-300-300. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, et un anniversaire dans quasiment tous les journaux, les 40 ans de l'élection de François Mitterrand.
Mais oui, le 10 mai 1981, Mitterrand devenait le premier président de gauche de la 5e République avec une promesse, celle de changer la vie. 4 décennies plus tard et à 1 an d'une nouvelle élection présidentielle, eh bien, c'est ce pont entre passé et présent qui occupe la plupart des unes de la presse ce matin, comme celle du Par exemple, aujourd'hui en France, l'anniversaire d'une gauche en crise, une gauche qui a perdu depuis une grande partie du vote populaire et qui se cherche encore un leader. Mais dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, en France, eh bien, les militants socialistes balancent entre nostalgie et désillusion. La une la plus dure ce matin, c'est peut-être et sans doute celle de Libération, avec un dessin de François Mitterrand qui lance imbécile aux figures du PS, Hidalgo, Hamon, Jox aussi, justement, sur cette une, le titre de Libé, gauche au pluriel, la crise de la quarantaine, le quotidien qui tape là où ça fait mal. Évoquant un camp en miettes, tant électoralement qu'idéologiquement.
Oui, on va voir ça aussi en une de la Dépêche du Midi dans un instant. Et puis je rappelle qu'on recevra Gérard Miller pour un documentaire sur François Mitterrand et ses amitiés tout à l'heure à 9h15. Qu'ensuite Georges-Marc Benamou, journaliste proche de la gauche, sera avec Valérie Expert à 10h. Et que André Berkoff ce midi va recevoir Jacques Attali. On se souvient que c'était l'un des conseillers Sherpa ensuite de François Mitterrand. On poursuit avec les échos qui s'intéresse au tourisme et à l'été.
Oui, le grand réveil avec une photo qui fait plaisir, qui donne envie avec cette plage et cette mer bleu azur pour annoncer bien des bonnes nouvelles du côté du tourisme puisque la perspective du déconfinement a suscité un bond des réservations, non seulement pour les ponts du mois de mai, mais aussi pour les vacances d'été qui approchent. La destination privilégiée, eh bien, c'est la France, c'est aussi une bonne nouvelle, avec une préférence pour le tourisme vert. Et attention à ceux qui ont prévu bien de louer une voiture pour ces ponts du mois de mai ou pour les vacances d'été puisqu'il y a des pénuries en vue, donc attention à vous. Et puis Bercy qui débloque 7,2 milliards pour les aides aux secteurs les plus affectés. C'était autant de bonnes nouvelles pour le tourisme.
Oui, et d'ailleurs je vous rappelle aussi le sondage ce matin, c'est un sondage réalisé par Sologer et Amivac sur les réservations pour cet été et les intentions des Français. Plus de 70% disent qu'ils ont prévu de partir en vacances, les 3/4, voire plus, en France, bien sûr. Et ils cherchent beaucoup des maisons pour aller moins de 10, quoi, entre 5 et 10 personnes pour se retrouver entre amis ou en famille. Et il y a un gros boom, effectivement, actuellement, des locations, mais ce n'est pas terminé. Merci à vous, Benjamin. On continue avec Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi. Bonjour, Philippe.
Bonjour à tous.
Alors, on le disait, une édition spéciale aussi chez vous sur le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand.
Voilà, une édition de 6 pages avec un invité spécial, l'ancien président de la République, François Hollande, qui nous fait part de ses souvenirs. Alors, il était jeune conseiller de l'Élysée en 1981. Il se rappelle de l'instant de bascule qu'a constitué l'élection de Mitterrand, le premier président de gauche de la 5e République. À toutes les personnes que nous avons interrogées pour ce dossier, notamment dans la région qui a été fidèle à François Mitterrand, on se rappelle qu'il finissait toujours ses campagnes à Toulouse. Alors, toutes ces personnes se rappellent effectivement de la joie du 10 mai, de l'espoir de voir changer la vie, souvent à la gauche, et d'un certain nombre de mesures fortes qui restent. On cite souvent la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort, les grands travaux, la politique culturelle très forte portée par Jacques Lang. Et d'ailleurs, on consacre une page à ces années 80 qui ont été celles de la modernité, de l'ouverture au monde, le TGV, le Minitel. Et puis, au fil des témoignages aussi, on pose aussi la question de savoir si l'héritage de François Mitterrand peut être utile aujourd'hui, à un an de la présidentielle, vous le disiez, à une gauche qui est quand même très fracturée, qui se déchire dans des batailles d'égo, qui manque d'idées fédératrices. Et c'est vrai qu'on peut se demander si d'autres 10 mai sont possibles.
Oui, ça c'est vrai. Pour la gauche qui est un petit peu perdue en ce moment. Merci beaucoup Philippe Rioux, donc avec cette édition spéciale sur le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu, je le disais. Christine Bouillot, Éric Revel, Thierry Guerrier, vos appels, comme tous les matins, 0826-300-300.
Oui, tout le monde est avec nous. Peut-être un souvenir à chacun de... Parce que quand même, vous étiez né, contrairement à Cédric Cizère, qui lui est né après l'élection de François Mitterrand. C'est dire
si
sa jeunesse.
Si vous dites le contraire, vous êtes démenteur.
Christine Bouillot, peut-être un souvenir, vous,
c'est la plus
même
jeune
si vous êtes
nous.
Très jeune. Mais, elle est très jeune. Si vous êtes très jeune, mais bien sûr, mais enfin quand même.
J'étais à l'école
l'école primaire, absolument. Oui, oui, je ne vais pas dire mon âge, mais j'étais à l'école primaire. Non, un souvenir. Alors, j'étais effectivement à Toulouse à cette époque. Philippe Rioux vient d'en parler à la Dépêche du Midi. Et c'est vrai que François Mitterrand, alors je l'ai connu, j'ai connu ça étant enfant, ses derniers meetings où il venait. Et il remplissait le stadium. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte d'un meeting de cette taille-là aujourd'hui. Donc, on voyait bien l'espérance qu'il y avait. Toulouse, tout le Grand Sud, le Sud Rouge, en fait, hein, était très pro François Mitterrand. Il y avait des scores absolument dantesques. Et après, en 88, là, j'étais déjà jeune étudiante et j'ai pu assister effectivement à ces fins de campagne, ces fins de meeting dans la Ville Rose où il y avait vraiment une ferveur, même si 88 n'est pas 81. Il y avait vraiment une ferveur forte. Il faut se rendre compte, il y a des départements comme l'Aude, le Gers, l'Ariège ont voté à 70% ou 65% pour François Mitterrand à l'époque. Hein. Donc, on voit bien l'espoir que ça générait. Mais ce 10 mai 80, oui, on sentait qu'il se passait quelque chose. Moi, même enfant, on sentait qu'à l'école, les choses n'étaient plus comme avant.
Oui. Éric Revel.
Oui, alors 10 mai 80, moi je suis à Nanterre. Moi j'ai déjà 20 ans en 80, chers amis. Hein,
oh là, vous voyez,
je pense qu'il y avait une véritable fascination autour de François Mitterrand, et une fascination finalement qui transcendait un peu les courants politiques, parce que François Mitterrand a tout été dans sa vie politiquement. Hein, il a été, c'est lui qui a fait l'union de la gauche avec les radicaux et le PC de Georges Marchais, mais c'est lui aussi qui a porté l'ordre de la Francisque. Vous voyez, donc c'était un personnage très complexe, politiquement venu plutôt de la droite, et qui a prospéré à gauche. En réalité, la politique de Mitterrand de gauche, pour tous ceux qui ont voté massivement pour lui, s'est arrêtée en 83. Hein. Entre 80 et 83, il y a eu certains diront des avancées sociales, d'autres diront des boulets aux pieds pour l'économie française, la retraite à 60 ans, etc. etc. Et puis à partir de 83, en réalité, François Mitterrand fait une politique économique plutôt libérale et de droite. Hein. Bon, voilà. Mais j'ai un petit avantage, peut-être, hein, sur Thierry et Christine, chers amis, c'est que moi, ensuite, ma carrière de journaliste, je l'ai commencé pratiquement en suivant pendant 4 ans et demi, 5 ans, les voyages de François Mitterrand à l'étranger. Donc, je faisais les sommets européens, je faisais les visites d'État, et j'ai découvert et la géographie et la géopolitique en allant du Bangladesh au Pakistan de Madame Benazir Bhutto à l'époque, en passant par la résidence des George Bush à Kennebunkport, dans le Maine. Vous voyez, j'ai eu cette chance-là. Et c'était un personnage que vous n'abordiez pas comme cela, évidemment. Hein. S'il ne vous adressait pas la parole, vous ne lui adressez pas la parole. Et quand Christine dit à juste titre qu'il remplissait des stadiums et que les meetings à l'époque, que ce soit pour François Mitterrand ou d'autres, étaient très populaires, parce que la parole politique portait encore et avait de la crédibilité et de l'importance. C'est peut-être la différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est mes petits souvenirs.
Mais la parole était plus rare à l'époque, surtout.
Oh non, les meetings. Il y en avait plein.
Non, mais il n'y avait pas, autant de médias et des réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Et résultat, ça remplaçait les stades qu'on n'appelait pas encore les stadiums à l'époque, bien sûr. Thierry Guerrier.
Oui, je croyais Éric Revel beaucoup plus jeune. Moi, j'ai un an de plus que lui. J'avais donc 21 ans en 1981. Et j'étais stagiaire dans une autre radio, une petite radio de Radio France qui s'appelle France Inter. Bon, voilà. Et mon propre frère était, lui, coursier aux dépêches dans une autre radio périphérique à Paris. Et nous nous étions donné rendez-vous après avoir assisté dans les studios 103 de la Maison de la Radio à l'émission commune entre Antenne 2 et France Inter avec un certain Patrice Duhamel qui annonce avec Jean-Pierre Elkabbach que c'est François Mitterrand qui est élu. Eh bien, moi, j'étais là, à côté d'un monsieur qui allait devenir ministre de la Défense, Charles Hernu, qui me donne un grand coup de coude au buffet. Et puis, on prend ma petite coccinelle verte et je vais rejoindre mon frère que je vais chercher et nous allons à la Bastille. On s'est dit, il faut voir ça. Et puis, quand nous sommes arrivés à la Bastille, il y a un monsieur qui arrive sur la droite avec sa fille, c'est Badinter, qui va devenir ministre de la Justice et bien sûr, qui va mettre fin à la peine de mort. Et puis, on se retrouve tous alors que la foule commence à s'en aller parce qu'il pleut. Et donc on a raté en quelque sorte le grand moment de fête, mais on était un petit bout de la Bastille, voilà, souvenir personnel. Et moi, c'était le début de ma carrière de journaliste à France Inter.
Et vous pourrez réagir d'ailleurs vous-même. Vous pourrez réagir au 0826 300 tout à l'heure, puisqu'on va évoquer donc le documentaire de Gérard Miller qui sera avec nous
sur le côté amical. Hein,
l'homme qui ne voulait pas rompre, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rompre ses amitiés, les garder. même si enfin
après de, les trahisons
ouais, ouais, ouais c'est ça de Dayan à Georges Dayan
il y a rompu sécateur quand même
non mais et c'est particulièrement intéressant, c'est diffusé sur Histoire TV, il sera avec nous tout à l'heure et puis dans un instant on va continuer en fait le débat autour de la nouvelle tribune des militaires hein, bien sûr sur les violences policières contre les policiers là ces derniers jours il y a eu Avignon bien sûr Fréjus il y a eu les Ulysses. On en parlera avec un représentant en fait des policiers et puis la campagne électorale qui est quand même un peu électrique comme nous le disait Thierry Guerrier tout à l'heure dans son édito.
Donc vous avez envie de réagir n'hésitez pas 0826 300 300, on revient dans un instant avec Félix Mathieu. Bonjour Félix.
Bonjour Cécile, bonjour à tous. La police disait les traquer, deux suspects interpellés hier après la mort du brigadier Éric Masson lors d'une opération antidrogue la semaine dernière à Avignon. Il pourrait s'agir du tireur et de son complice. Interpellation quelques heures après une cérémonie d'hommage devant le commissariat d'Avignon. Hier, 5000 personnes ont observé une minute de silence en la mémoire du policier tué. 70 CRS à Fréjus en renfort depuis hier soir suite aux violences nocturnes du week-end. Une trentaine d'individus ont affronté les forces de l'ordre, brûlant des voitures et endommageant des commerces. Dès ce soir, les syndicats de police reçus par Jean Castex à Matignon. Le Premier ministre entend généraliser les caméras piétons individuelles dès cet été, mais aussi débloquer 10 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la sécurité des commissariats. Coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Tous les Français âgés de 50 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner sans condition. Puis à partir d'après-demain, mercredi, les injections seront aussi accessibles à tous les adultes dès 18 ans lorsqu'un créneau sera disponible la veille pour le lendemain et sur les plateformes de prise de rendez-vous. L'Union européenne, de son côté, ne renouvelle pas pour le moment son contrat avec AstraZeneca au-delà du mois de juin. La Commission de Bruxelles pointe notamment les retards de livraison du laboratoire britannique. La pandémie qui en tout cas semble marquer le pas en France. Le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation repasse sous la barre des 5000 personnes au niveau national. Attention, 13 départements en vigilance orange aux orages et aux vents violents. Cela concerne notamment l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En plus de ça, 5 départements du Sud-Est désormais en orange aussi aux pluies ainsi qu'aux inondations. Avis de tension également entre le gouvernement et le Sénat. L'exécutif dément vouloir abandonner son projet de référendum sur le climat, comme l'affirmait le JDD hier. Et si ce projet de référendum est compromis, c'est à cause des réticences des sénateurs, explique-t-on du côté du gouvernement. Ce référendum visait à inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. En tout cas, 115 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé hier aux différentes marches pour le climat. Pendant ce temps, hier, une partie du PS se réunissait pour un anniversaire, l'élection de François Mitterrand. C'était il y a 40 ans aujourd'hui, 10 mai 81. Pour l'occasion, Lionel Jospin, François Hollande ou encore Anne Hidalgo se sont retrouvés en Saône-et-Loire. Un anniversaire au menu de Berkoff dans tous ses états à partir de midi sur Sud Radio, invité Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand à l'Élysée. En tout cas en 2022 comme en 81 d'ailleurs, eh bien, il y aura bien un candidat communiste à l'élection présidentielle, c'est désormais officiel. Fabien Roussel, le secrétaire général du PCF, investi par 82% des militants, les communistes qui s'étaient rangés derrière Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour lors des deux dernières élections présidentielles. Une nouvelle tribune de militaires ouverte cette fois aux signatures après un premier texte controversé, Valeurs Actuelles a mis en ligne ce nouveau texte intitulé « Pour la survie de notre pays ». Elle a été lancée cette fois par des militaires d'active, c'est-à-dire encore en fonction. Selon l'hebdomadaire, dont le site affiche désormais plus d'un million, 180 000 signatures. Et puis en football, après son élimination sur la scène européenne, le PSG tenu en échec hier, match nul, un partout face à Rennes, des Parisiens qui laissent Lille en tête de la Ligue 1 avec 3 points d'avance à 2 journées du dénouement. Sud Radio, 9h05.
Merci beaucoup Félix Mathieu.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, on va parler dans un instant de cette nouvelle tribune des militaires hein, qui est parue ce matin, enfin hier soir, dès hier soir, il y a eu des fuites et ce matin. Et avant ça, tout de même, un point sur ce qui s'est passé des violences contre des policiers.
Oui.
Et là, c'était à Fréjus, hein, Cécile.
Oui, après la nuit de chaos, donc à Fréjus, 70 CRS envoyés en renfort. Hier et maintenant, bah, on va en parler. David Olivier Reverdier est avec nous, secrétaire national province pour le syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que le calme est revenu hier soir et cette nuit ?
Oui, cette nuit, le calme est revenu, oui. Aidé en cela par l'apport, vous l'avez dit, de 66 CRS. Donc, ils sont venus prêter main forte aux effectifs locaux.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette nuit, en fait, de violence contre le commissariat ?
Alors, c'était pas contre le commissariat, c'était non. contre des magasins, c'était dans la ville. C'était
oui, dans la ville,
une
oui.
une véritable mais... scène de chaos, de guérilla. En fait, un simple contrôle. Ouais. Tout simplement, lorsqu'à 23h30, nous sommes appelés pour des, comme l'on dit dans notre jargon, des perturbateurs, ouais. Alors qu'on est en plein confinement et qu'on est censé être chez soi. Et donc, à 23h30, nos collègues vont dans cette fameuse cité, la Gabelle, à Fréjus, donc pour faire cesser justement ce trouble et faire tout simplement regagner les individus chez eux. Ouais. Sauf que là, bah, ils ne l'entendent pas de cette oreille et c'est une déferlante de projectiles à croire qu'ils avaient réellement préparé leur but, une déferlante de projectiles qui s'abat sur nos collègues qui sont obligés de riposter et de là c'est l'escalade, ça s'engraine et nos collègues sont reculent, des renforts arrivent mais telle une nuée de sauterelles, ouais. Les individus fondent sur la rue Jean Giono, sur l'avenue Général Leclerc à Saint-Raphaël. Et détruisent tout sur leur passage, brûlent des véhicules, dont un véhicule de la police municipale, détruisent et dégradent des vitrines. Voilà, c'est.
Mais pourquoi blessent, vous dites ils ont atteint leur but? Pourquoi? Parce que vous pensez que c'était une forme de traquenard? Alors c'est ça qui avait été attendu.
Non, effectivement, on peut imaginer le traquenard parce que être armé de projectiles, si on n'attendait pas la venue de la police. Il faut m'expliquer pourquoi autant de projectiles étaient à disposition de ces individus qui les ont jetés sur nos collègues en blessant trois d'entre eux.
Ouais. Je disais commissariat tout à l'heure parce que, pardon, mais j'ai fait une confusion avec les Ulysses hein, qui ont été attaqués ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche et puis également en fait en milieu de semaine. Et ce que nous disait un policier tout à l'heure qui était avec nous à 7h10 sur Sud Radio, il disait que évidemment c'est parce qu'il y avait la traque des trafiquants de drogue, des points de deal notamment, qui renforçaient ces violences. C'est aussi votre sentiment du côté de Fréjus, comme on l'a vécu à Avignon donc, ces derniers jours avec le meurtre de ce jeune policier.
Alors, par certains endroits, oui. La traque intensifiée des services de police contre les trafics, bah, justement, gêne et génère justement des ripostes de la part de ces trafiquants. Mais, encore une fois, je vous le répète, les faits, on ne venait pas faire un contrôle de stup à 23h30.
Bah non.
On venait simplement faire régner, j'allais dire, la tranquillité publique, le calme, par des individus qui perturbaient justement le voisinage à une heure tardive de la soirée. Donc là, on est simplement dans une scène de chaos ordinaire, de violence ordinaire, telle que nos collègues le vivent à Fréjus, vous l'avez dit aux Ulysses, dans l'ensemble des départements d'Île-de-France, mais également dans quasiment l'ensemble du territoire national. Je pense à Lyon et sa banlieue, je pense à plein d'autres villes qui sont l'objet régulièrement, quasi tous les soirs, de jets de projectiles, de mortiers d'artifice. On le filme, on le met sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que quand il y a une vidéo, c'est un peu plus médiatisé. Et quand ça l'est pas, nos collègues subissent, se font blesser dans l'indifférence la plus totale.
Oui, qu'est-ce que vous demandez d'une façon générale? C'est davantage d'effectifs. Là, Jean Castex reçoit les syndicats en fait aujourd'hui. Il a annoncé qu'il y allait avoir des recrutements de policiers supplémentaires. Ça va dans le sens de ce que vous réclamez?
Alors des effectifs, bien évidemment, on le voit aujourd'hui, surtout pour les effectifs de nuit, sont assez démunis en nombre de patrouilles et d'effectifs. Des renforts sont obligés de venir rapidement pour prêter main forte aux effectifs locaux. Donc ça, c'est une réalité. Du matériel aussi, nos collègues ont été en rupture de munitions très rapidement parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais surtout, ce qu'on demande aussi, et on revient toujours à la même chose, c'est la réponse pénale. La réponse pénale aujourd'hui dans ce pays doit être à la hauteur des enjeux, doit être à la hauteur de ce qu'on subit. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'on demande un observatoire de la réponse pénale pour savoir les peines encourues, les peines prononcées et les peines surtout régulières, et les peines régulièrement effectuées. Oui. Et on veut savoir ce qui se passe, pourquoi ça dysfonctionne et pourquoi ces individus ont le sentiment d'une impunité et qui leur permettent de se désinhiber dans la violence et leur permettent de s'en prendre régulièrement en force de l'ordre.
Oui. Sur le trafic de drogue, indépendamment de la violence, sur le trafic de drogue, est-ce que, on l'a évoqué la semaine dernière et c'est l'une des questions qu'on pose sur les réseaux sociaux ce matin, est-ce que ce serait une bonne piste de légaliser le cannabis? Alors vous êtes policier, vous n'êtes pas évidemment juriste ou politique, mais tout de même vous qui êtes aussi sur le terrain.
J'allais vous dire, voilà, nous on appliquera la loi telle que sera décidée par le législateur. En attendant, on peut avoir des avis. Nous avons été interrogés par la commission de députés qui a rendu son rapport sur la légalisation du cannabis. et à l'unanimité des syndicats de police, tout corps confondu, nous sommes tous hostiles à cette légalisation. Alors bizarrement, pas un mot de cette hostilité ne figure dans le rapport parlementaire et dans ses conclusions. Mmh. C'est quand même dommage. Nous, ce que l'on dit simplement, et ce qu'on alerte, c'est qu'aujourd'hui, si on légalise le cannabis parce qu'on n'est pas arrivé à le contenir, c'est aussi parce que justement, on n'a jamais appliqué les sanctions du code pénal qui existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle sanction, il ne s'agit pas d'alourdir, il s'agit simplement d'appliquer les sanctions qui existent, sauf que ça n'a jamais été fait. Mmh. Donc c'est vrai que derrière, aujourd'hui, on se dit, si on légalise le cannabis et qu'on sait aussi que la part des drogues plus dures que sont la cocaïne est en explosion en termes de consommation, en explosion en termes de saisie, ça veut dire que demain, si on pousse le bouchon un peu plus loin, on n'arrivera pas à régler le problème de la cocaïne comme on n'arrive pas à régler celui du cannabis. Et donc, ouais, on va aussi, ouais, légaliser d'autres drogues parce qu'en fait, c'est la légalisation, c'est peut-être l'arme du lâche dans le sens où ça crée, je pense, plus de problèmes que ça n'en résout. Ça ne résout pas la consommation des mineurs. Aujourd'hui, un mineur sur deux.
On dit que ça permettrait de réguler un peu, quoi. Mais enfin bon, mais c'est vrai que c'est un.
Ça régulera rien, ça fera rentrer éventuellement de l'argent dans les caisses de l'État parce qu'on va fiscaliser la revente. Sauf que on le voit aussi, la teneur en THC, qui est la substance nocive du cannabis, est de plus en plus forte. Donc le cannabis est de plus en plus pur, donc est de plus en plus puissant et fait de plus en plus de ravages. Et aujourd'hui, l'État ne pourra jamais vendre des substances aussi dangereuses que cela. Donc il y aura toujours un marché noir, et puis comment penser que des individus qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine puissent du jour au lendemain accepter cette vente, légalisée de cannabis, sans eux ne rien faire et ne pas se retourner vers d'autres trafics de manière à continuer à maintenir un train de vie qui est plutôt extraordinaire.
Oui, merci beaucoup David Olivier Reverdy, secrétaire national donc province, hein, région donc pour le syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Alors on l'évoquait aussi, Thierry Guerrier, Éric Revel et Christine Bouillot, tout à l'heure, la nouvelle tribune des militaires. Oui. Thierry, en fait, deux mots sur cette nouvelle tribune. Alors, Benjamin Glaise nous disait qu'il y a, elle est énormément relayée sur les réseaux sociaux avec énormément de signatures. Déjà, il faut dire que ce sont des militaires anonymes et on ne sait pas quelle est la part de militaires et puis de civils, en fait, non, en tout cas derrière.
Disons les choses, il y a derrière cette initiative, il faut se poser des questions en effet sur qui est à l'origine. On ne peut pas savoir puisqu'il s'agit d'anonymes. Il y a sans doute du vrai, il y a sans doute une réalité, des officiers d'actifs qui ne sont pas contents, mais il y a aussi une manip politique. Il faut dire les choses, c'est soutenu par Valeurs Actuelles qui mène un combat politique clairement à la droite de la droite contre le président de la République et la majorité, et puis il y a un soutien de Marine Le Pen, dont acte. Maintenant, il y a des faits. Les faits, c'est une première tribune de généraux en retraite ou d'officiers étoilés ou d'officiers supérieurs retraités qui ont signé de leur nom. Et puis aujourd'hui, il y aurait ce deuxième acte, en quelque sorte, de cette opération d'hommes ou de femmes d'actives qui disent, eux, attention, vous avez sali nos camarades anciens, les plus vieux, voilà, et il faut en tenir compte. Je crois qu'il faut la lire, d'abord, tribune, parce qu'il y a des choses très intéressantes. On vient de citer Avignon, Fréjus, les Ulysse, et eux disent, nous voyons les violences dans nos villes et villages, nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, la haine de la France devenir la norme. Voilà, il y a des choses qui font écho à une réalité, et c'est important. Et il faut que le président de la République en tienne compte parce qu'il y a tout de même dans les forces de l'ordre, depuis des années, on n'a pas attendu même François Hollande, pour savoir qu'il y avait un feu qui couve à certains égards chez certains. Maintenant, quelle est la proportion? Ce qui est important, c'est aussi tout de même de noter qu'il y a des gens qui disent être d'actifs et qui mettent en cause la discipline des armées, qui est leur seule force, et qui mettent en cause le président de la République, qui est le chef des armées. Il parle de vos guerres, en parlant par exemple du Mali, de Centrafrique ou d'Afghanistan. Pardon, ce ne sont pas les guerres de président Macron, c'est celles de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, de François Hollande, ce sont les guerres de la France. Donc là, il y a une petite contradiction et c'est un souci.
Éric Revel et Christine Bouillot,
Alors moi, je ne partage pas du tout le point de vue de Thierry Guerrier. Non, pas du tout. En réalité, cette tribune, bon, elle est anonyme parce que par définition, les militaires, notamment d'actifs, sont tenus au droit de réserve, donc ils n'avaient pas signé de leur nom. Mais je pense.
Mais on ne sait pas du coup qui c'est, combien ils sont.
On confond la cause et la conséquence, mon cher Thierry. C'est-à-dire qu'en réalité, vous en faites une manipulation politique.
Non, il y a une part d'Action
Valeurs
politique.
Valeurs Actuelles, qui est un magazine politiquement très engagé, c'est pas parce que Valeurs Actuelles propose de publier une tribune qu'on va créer une tribune, pas du tout. Cette tribune, c'est la deuxième du nom, je l'ai lue avec vraiment beaucoup d'attention, et en réalité, elle traduit quoi ? Elle traduit un malaise absolument général dans l'armée, je pense, dans les forces de l'ordre. Le témoignage qu'on vient d'entendre à l'instant sur l'antenne de Sud Radio parle de véritables guérillas urbaines. Donc je veux bien...
J'y ai fait référence, vous l'aurez noté.
Ça n'est pas très grave, c'est de la manipulation politique parce que la présidentielle arrive. Si c'était le cas, mon cher Thierry, ce serait effectivement pas très grave. En réalité, cette colère des militaires, cette colère des forces de l'ordre, elle monte graduellement de plus en plus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, qui s'est passé sous l'Arc de Triomphe. Vous avez vu cette image absolument sidérante du chef de l'État, chef des armées, entouré, j'allais dire, du cercle ou de la farandole des chefs d'État-major, comme si Emmanuel Macron avait besoin de prouver au peuple français qu'il est bien le chef de l'armée. S'il n'y avait pas
tous
un
les 8 mai 45,
profond,
ça se passe
au-delà
ça.
De la manipulation politique dont vous parlez, Thierry, le président de la République et son service de communication n'auraient pas besoin de se livrer à pareil exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème, et c'est pas simplement en faisant de la manipulation politique, mon cher Thierry, qu'on résoudra ce problème qui tenaille la société française.
Ouais. Christine Bouillot.
Oui, alors après, tout à l'heure, dans la revue de presse, Benjamin Glaize annonçait le chiffre hallucinant d'1 300 000 signatures de cette tribune. Alors, ce n'est pas des signatures, c'est des visites uniques. C'est ce que comptabilise le site de Valeurs Actuelles. Donc, il faut relativiser la curiosité.
Oui, ce n'est pas la signature d'une pétition. Ah, oui. Parce que
et ce n'est pas une pétition, c'est une tribune.
Non, c'est pour ça, oui.
Donc, il faut faire attention à tout ça, parce que là-dessus, il y a un objectif derrière cette deuxième tribune des militaires. Et il faudra voir, effectivement, quelles seront les répercussions. Alors, moi, je dirais, enfin, personnellement, je pense que quand on parle de guérilla urbaine, ce mot dans l'actualité, quand on suit l'actualité des quartiers, n'est pas nouveau. Le malaise des policiers, pardonnez-moi, mais ça fait malheureusement des années que ces mêmes policiers et syndicats de policiers alertent sur leurs conditions de travail, sur la difficulté qu'ils ont à entrer dans les quartiers.
Attendez, Eric, on vous a laissé parler, laissez Christine Bouillot parler, vous répondrez en fait après. Oui,
Eric,
chacun son
je
tour.
Pense que la difficulté d'intervention dans les quartiers n'est pas un phénomène nouveau. Ce problème de violence grandissante vis-à-vis d'une population, en tous les cas de petits trafiquants et dealers, ne fait que monter, et on sent bien que la réponse aujourd'hui n'est toujours pas satisfaisante, puisqu'on n'arrive pas à enrayer ce phénomène. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ce message qui est distillé, qui est, moi aussi, je l'ai lu avec attention, cette tribune, quand il termine en disant c'est ce qui précède le chaos, je trouve que de leur part, personnellement, c'est quand même gravissime de se permettre de lancer ce genre d'avertissement au chef de l'État, qui est le chef des armées. Ouais. Voilà, c'est effectivement...
Éric Revel, Thierry Guerrier. Éric, vous vouliez répondre, enfin, justement...
Pardonnez-moi, mais je vais... Vous savez, c'était le titre d'une copie de philo. Un seul peut-il avoir raison contre tous. Je regrette. On parle de Fréjus, on parle de Saint-Raphaël, mais je crois même que la nuit dernière, il y a eu des problèmes à Cannes, vous voyez, je ne suis pas très loin. En réalité, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ce que Christine décrit comme finalement un phénomène qui est en croissance, mais qui existe depuis longtemps, puisqu'on ne parle que des quartiers difficiles ou des banlieues, en réalité, c'est une accélération un peu exponentielle, pardonnez-moi. Mais les difficultés des quartiers et la façon dont certains s'en prenaient aux forces de l'ordre n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu ces images, par exemple, à Fréjus et à Saint-Raphaël. Fréjus, Saint-Raphaël, on n'est pas à Montreuil, je ne stigmatise aucune ville, on n'est pas à Nanterre, on n'est pas dans les banlieues difficiles, on est sur la Côte d'Azur. Bon, donc ce que vous dites... ma chère Christine, comme étant finalement un long processus qui existe depuis des décennies, il faut se rendre
compte. J'ai pas dit des
décennies,
j'ai dit depuis plusieurs années, ça ne date pas d'hier.
C'est qu'en réalité, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus violent, jusque et y compris ce qui s'est passé à Avignon. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un policier qui contrôlait un petit trafiquant de drogue, visiblement au cannabis, et que le type lui a tiré dessus. Vous voyez ? Donc on n'est plus du tout dans cette petite contestation. On est dans un mouvement, me semble-t-il, très lourd et assez grave.
Ouais, Thierry Guerrier.
Éric a fait semblant de ne pas entendre la moitié de ce que j'ai dit. J'ai noté, en ayant insisté sur le fait qu'il fallait la lire, elle est bien écrite, il y a des choses qui font écho à une réalité, je l'ai dit clairement, le communautarisme et puis cette violence dans les villes et les villages, dont acte. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'il s'agit, et la question est de savoir combien sont-ils, parce qu'en vérité, ça laisse entendre que toute l'armée d'active, aujourd'hui, ne serait pas solidaire et disciplinée aux ordres du président de la République. Non, je pense que c'est ça, comme dit Christine Bouillot, je pense que c'est ça qui est grave, alors qu'en réalité, la discipline est la force des armées. Celui qui énonçait ce principe, c'est Napoléon, par exemple, et qui savait ce que c'était que la discipline. Donc je crois que ce n'est pas le cas, que l'armée est dans l'essentiel de, de la réalité de son corps aujourd'hui respectueuse de la discipline, et même s'il y a des éléments factuels intéressants dans cette tribune, pour autant, on ne peut pas remettre en cause l'autorité
de l'État. On va continuer de beaucoup en parler tout au long de la journée. Tout au long de la journée, dans les débats, bien sûr, tout à l'heure de Valérie Expert à 10h30, chez André Bercoff ce midi, et puis dans les vraies voix ce soir, bien sûr, et dans les jours qui viennent, probablement, avec cette nouvelle tribune militaire. Mais on va revenir maintenant
sur cette date anniversaire
où on va recevoir donc Gérard Miller.
Oui, qui est psychanalyste, docteur en philosophie, et qui co-réalise ce documentaire avec sa fille, François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre. C'est dans un instant, vous voulez poser des questions, 0826 300 300. On parle d'amitié autour de François Mitterrand. À tout de suite.